Et en studio, eh bien, il y a Caillot Bayard, zoothérapeute, membre de la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Bonjour, Madame Bayard.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va parce que je suis très content parce que vous nous avez emmené en studio Béatrice, un chien, je ne sais pas c'est quelle race en fait, là, puis je ne sais pas, il est caché où sûrement à mes pieds en ce moment, là. C'est quelle race ce chien?
Aujourd'hui, j'ai amené Béatrice avec moi. Béatrice, c'est un épagneul américain. Elle a 4 ans, elle en aura bientôt 5. Alors, c'est un chien, on peut dire adulte. C'est une jeune femme. Qui adore la compagnie des gens, qui est très curieuse et très gourmande aussi.
Très gourmande.
Très gourmande.
On en entend déjà peut-être déjà parler de la zoothérapie, des effets bénéfiques que ça peut avoir chez l'humain, comme des
Oui.
fois c'est avec des chiens, d'autres fois c'est d'autres animaux qui sont utilisés. Vous, Madame Bayard, ça vous vient d'où en fait cette idée-là ou ce désir-là de mettre en contact l'humain et le chien?
Je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs, dont entre autres un grand amour pour les animaux et un grand amour aussi pour les humains. Alors, la zoothérapie, ça me permet de regrouper ces deux grandes passions-là que j'ai et de les mettre en pratique à tous les jours. Alors, je suis zoothérapeute, très fière de l'être et je pense que j'ai le plus beau métier du monde.
Vous pratiquez depuis plusieurs années déjà?
Depuis 6 ans
Depuis 6 ans.
maintenant, oui.
Puis est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, au fil des années, au fil des expériences, c'est quoi peut-être des cas que vous avez vus où vous avez vraiment compris que la zoothérapie pouvait effectivement vraiment aider quelqu'un qui est atteint de troubles quelconques, là?
Oui. En fait, si on va dans les encyclopédies, sur le site de la Corporation des zoothérapeutes du Québec, on donne une définition de la zoothérapie. Et tout le monde s'entend pour dire que la zoothérapie, c'est une thérapie qui utilise la proximité d'un animal domestique ou de compagnie auprès d'un humain. Et là où j'accroche, c'est qu'on dit que cet humain-là, il souffre de troubles mentaux, physiques ou sociaux, et on utilise la zoothérapie pour réduire le stress ou les conséquences d'un traitement médical,
Et vous n'êtes pas
par
d'accord
exemple.
avec cette définition-là?
Je crois que la zoothérapie est bénéfique à tous. Que l'on soit bien portant, que l'on soit souffrant, qu'on ait 2 mois ou qu'on ait 110 ans, la zoothérapie, sous la forme d'un contact avec un animal, ça nous fait du bien.
Puis ça peut, mais bon, je suis d'accord à savoir que ça peut aider toutes sortes de personnes, qu'on soit atteint ou non d'un trouble,
Oui.
mais on entend souvent parler que c'est beaucoup utilisé chez les personnes qui peuvent être atteintes, par exemple, de sclérose en plaques, de Alzheimer, des personnes autistes. Il y avait même tantôt Madame Lepage de l'organisme Parkinson Montréal-Laval qui nous disait que les personnes atteintes de Parkinson pouvaient tirer du bien du contact avec les animaux.
Tout à fait.
Où vient en fait là, cet échange bénéfique-là, comment on peut l'expliquer, cette magie qui se crée?
Oui, c'est difficile à expliquer de façon vraiment quantitative, mais on s'entend tous pour dire, et par là, j'entends les professionnels de la santé, si on parle de maladie, d'un trouble cognitif ou maladie neurologique. On s'entend tous pour dire qu'au contact de l'animal, il y a une joie de vivre, un bonheur, une bonne humeur qui s'installe chez l'humain. Si on prend l'exemple du Parkinson, une personne qui souffre physiquement ou même la sclérose en plaques, bon, ces gens-là ont des douleurs chroniques continuelles. Si on leur amène un chat et que le chat se love sur leur cuisse et se met à ronronner, ben au-delà de la chaleur que dégage le corps de l'animal, il y a le ronronnement. Le ronronnement va produire des ondes qui se communiquent au corps humain et qui ont un effet presque hypnotisant. Alors, l'animal n'est pas un miracle en soi, c'est pas un médicament, mais il va altérer la perception de la douleur chez la personne qui en souffre. Alors, c'est un effet qui est temporaire, évidemment, mais qui va durer jusqu'à 8 heures après que l'animal se soit retiré.
Et sans dire que ça change le mal de place, parce que c'est pas exactement ce que je veux dire, mais ça va à tout le moins changer la concentration ou le focus de la personne.
Tout
plutôt
à fait.
Que focusser sur son mal, il va peut-être davantage se préoccuper du petit chien qui vient d'entrer sur son lit, par exemple.
Bien sûr.
Puis est-ce que
oui.
c'est vrai, ça, que les chiens ont cette espèce de septième sens où ils peuvent détecter la douleur?
Je vous dirais qu'au fil de mes années d'expérience, j'ai rencontré plusieurs clientèles. Je travaille avec des gens qui souffrent de maladies chroniques. Je travaille avec des gens qui souffrent de... Ben, qui souffrent. Qui ont... J'aime pas le mot souffrir. J'essaie de l'éviter, mais on se le fait dire tellement souvent que
c'est
ancré
rentré dans
en
le
nous.
langage universel. Ouais, je
Oui.
sais.
Bon, alors, par exemple, quelqu'un qui a une maladie chronique, quelqu'un qui est en fin de vie, quelqu'un qui a une maladie mentale, ou quelqu'un qui est bien portant, l'animal va détecter le besoin que ressent cet humain-là et va adapter son comportement en conséquence. Par exemple, si je rentre dans la chambre d'une madame qui est atteinte de sclérose en plaques et qui a des douleurs, ben les animaux vont monter sur son lit et vont se coucher auprès d'elle, mais très délicatement. Alors que si c'est quelqu'un qui est bien portant, ils vont être beaucoup plus joyeux, exubérants, ils vont sauter sur
Donc,
ses
ils savent
genoux.
s'adapter.
Tout à fait. Et quand on entre dans la chambre de quelqu'un qui est en fin de vie, même si c'est quelqu'un qu'on a rencontré pendant une année ou deux ou trois et qu'ils connaissent très bien, évidemment, dans le processus de fin de vie, l'humain n'est pas le même.
Ouais.
Dès notre entrée dans l'établissement, les animaux ressentent ce changement-là et quand ils vont rentrer dans la chambre, le comportement va être très calme, très solennel. Ils vont avoir une attitude encore plus respectueuse
Oh.
vers l'humain. Et oui, la zoothérapie, ça se vit. Quand on le voit, on en a des frissons dans le corps.
Parce qu'ils peuvent pas, les chiens ne peuvent pas lire les dossiers médicaux des patients, évidemment. Donc moi, ce que je comprends, mais ils sont capables de détecter l'état d'âme, l'état dans lequel se trouve la personne.
Oui.
Mais est-ce que vous les préparez quand même? Est-ce que vous leur donnez des indications aux chiens ou...
C'est certain que les animaux ont la capacité que nous, les humains, on n'a pas, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur le moment présent, ici, maintenant, alors que nous, on est éparpillés un petit peu partout. Parce que leur focus est sur le moment présent, ils sont en mesure d'observer tout ce qui se passe alentour d'eux et ils peuvent analyser. Ils peuvent ressentir ce que nous ressentons et ce qui est souvent invisible à l'œil humain.
Mais c'est
Et
important de retenir quand même que l'animal seul ne peut pas faire de la zoothérapie.
absolument, parce que l'animal, en fait, dans la dans le contexte de la zoothérapie, l'animal est d'abord un prétexte pour entrer en contact avec quelqu'un qui est souvent isolé, renfermé sur lui-même
Un
et qui
médium.
ne... Oui, c'est un médium. On arrive à toucher les gens qui souvent ne participent pas à aucune des activités proposées. Le bingo, le bricolage, les sorties, ça ne les intéresse pas. Et il faut se souvenir aussi qu'on vit le phénomène d'une population vieillissante. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ne vivaient pas comme nous vivons aujourd'hui. On sort, on travaille, on a des activités, des loisirs, on a beaucoup d'amis. À l'époque, les femmes restaient à la maison et s'occupaient du foyer, de la famille. Ces gens-là ne vont pas spontanément se mettre à visiter leurs voisins, voisines de chambre en résidence. Ils n'ont pas cette habitude-là. Alors, ils souffrent réellement. Et là, le mot « souffrir » est exact.
S'applique, ouais.
Oui, ils souffrent d'isolement. Mais quand on frappe à la porte et qu'ils voient le petit museau d'un chien ou d'un chat, toutes les barrières s'estompent et on peut entrer en contact avec eux dans une relation authentique quasiment instantanément.
Et en terminant, peut-être, Caro Bayard, on rappelle que vous êtes zoothérapeute.
Zoothérapeute, oui.
Si quelqu'un nous écoute à la maison puis pense qu'effectivement la zoothérapie pourrait avoir un effet bénéfique chez un proche qui a l'Alzheimer, Parkinson, déficience intellectuelle, peu importe,
oui.
Comment on procède rapidement si on veut entrer en contact avec quelqu'un?
Je vous suggère fortement d'aller sur le site officiel de la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Vous allez trouver des renseignements très, très, très importants sur ce qu'est la zoothérapie, dans quel contexte on peut la pratiquer. Et évidemment, il y a un bottin des membres avec tous les membres de la Corpo.
On va noter le site corpozothérapeute.com. Également, on va mettre le lien sur notre site internet visivoix.com. Merci beaucoup, Mme Bayard, d'être venue aujourd'hui ici avec Béatrice, qui est maintenant couchée là, sur la table tranquillement.
Ça m'a fait plaisir. Merci de nous recevoir.
C'est un grand plaisir.
Merci.